Mireille Kanyang.
Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Inauguration officielle ce mardi du centre Yezumiza chargé du suivi des consommateurs de drogues injectables. Occasion d'informer que plus de 90% de personnes vivant avec le VIH-Sida connaissent déjà leur statut sérologique. L'interdiction des enseignements pour les élèves en vacances par le ministère burundais de l'Éducation est salutaire, note un psychopédagogue et professeur d'université. Ouf de soulagement des cultivateurs de la commune Bururi en province Burunga, ils viennent d'être approvisionnés en fertilisants de type urée. Ils demandent toutefois que l'engrais soit disponible à temps pour la saison culturelle A. Le point c'est dans cette édition mise en onde par Albert Douayo.
Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel.
Page santé pour débuter cette édition. Inauguration officielle ce mardi du centre Yezumiza chargé du suivi des consommateurs de drogues injectables. Le secrétaire permanent au ministère burundais de la santé publique a annoncé que 90% de Burundais vivant avec le VIH-Sida connaissent déjà leur statut sérologique. Dr Olivier Nijimbele a rappelé que les personnes consommant des drogues par injection figurent parmi les plus exposées à la contamination, d'où la nécessité de renforcer leur prise en charge et de mettre l'accent sur la prévention de ce groupe à haut risque. On écoute.
Nous venons de lancer officiellement le centre médical de traitement agoniste aux opioïdes ici au service Yezumiza dans le cadre de l'objectif de l'ONU SIDA d'aboutir au contrôle de l'épidémie de VIH à l'horizon 2030. L'objectif de ce centre, c'est d'accueillir les usagers de drogue pour pouvoir leur administrer un traitement qui va leur permettre d'abandonner l'usage des drogues injectables.
Au sein du ministère et à la santé, dans ses attributions, avez-vous des effectifs des consommateurs de drogues qui ont été affectés par le VIH-Sida?
Au Burundi, nous avons marqué des progrès, comme nous pouvons le constater avec les résultats de l'enquête démographique et de santé qui a été réalisée en 2016-2017, qui nous ont montré que la séroprévalence au VIH est en train de baisser jusqu'à 0,9%. C'est donc un pas important que nous avons franchi, même s'il y a d'autres défis auxquels nous devons faire face, notamment l'augmentation de la séroprévalence du VIH au sein de ce groupe vulnérable constitué par les personnes usagères de drogues injectables au Burundi. Et notre objectif, c'est de pouvoir atteindre les 3,95%, c'est-à-dire que nous voulons qu'au moins 95% des personnes vivant avec le VIH puissent connaître leur statut, que 95% de ces personnes puissent avoir accès au traitement antirétroviral pour en faire aboutir à au moins 95% pour lesquels la charge virale a été supprimée.
Et quel appel lancez aux parents qui ont des enfants consommateurs de drogues?
Nous demandons aux parents en général de renforcer l'éducation en famille, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais pour ces enfants qui se sont donnés à l'usage des drogues injectables, nous demandons à leurs parents de les soutenir, de les mobiliser, de travailler avec le service Yezumiza et les associations qui sont en train d'appuyer dans ce sens pour que tous ces jeunes puissent venir à ce centre et bénéficier du traitement.
Page éducation de cette édition. Le ministère burundais de l'Éducation et de la Recherche scientifique interdit les enseignements dispensés pendant les vacances aux élèves sur le programme de l'année scolaire 2025-2026. Ceci ressort d'une correspondance du 22 août adressée aux directeurs provinciaux de l'éducation. Dans cette correspondance, le ministre François Habyarimana informe que certaines écoles organisent ces enseignements prétendant préparer leurs élèves au concours national ou l'examen d'état édition 2026, puis accueille des élèves venant d'autres établissements lors de la rentrée scolaire. Selon le ministre de l'Éducation, c'est une mauvaise pratique défavorisant ces nouveaux arrivants. Il affirme que la perturbation de la période de vacances a des conséquences néfastes sur leur capacité d'assimilation des leçons. Le ministre de l'Éducation avertit par la présente correspondance que des sanctions sont prévues pour les directeurs d'établissements scolaires qui ne vont pas respecter cette instruction. Cette mesure concerne toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, précise la correspondance. Sur ce, un psychopédagogue et professeur d'université déclare soutenir cette instruction de suspendre les enseignements dispensés pendant les vacances. Selon Innocent Nouari, lorsqu'un enfant étudie pendant une longue période de son repos, cela peut entraîner une perte de concentration à l'école. Ce doyen de la faculté de psychologie à l'université du Burundi explique que lorsque les enfants commencent l'école en même temps, cela facilite l'inspection et l'évaluation du déroulement des enseignements dans les établissements scolaires, puisque évoluant au même rythme, on l'écoute.
Je suis tout à fait d'accord par rapport aux instructions qu'il a données au directeur en charge de l'éducation dans les provinces pour plusieurs raisons. En un mot, ça trace un cadre d'harmonie et d'ordre dans le système éducatif. Parce que si chaque école devrait commencer les enseignements quand elle veut, pour moi, ça crée un désordre. Tout d'abord, ils sont d'abord en seul ministère, c'est la base, c'est elle qui doit donner des orientations, que ce soit pour les écoles privées, que ce soit pour les écoles publiques, parce que nous sommes dans le même ministère. Si certaines écoles organisent les enseignements pendant les vacances, ça peut nuire exactement la qualité d'apprentissage des apprenants, parce que, figurez-vous, les enfants, y compris comme les adultes, tout le monde a besoin de se reposer. En particulier pour les petits, pour les enfants de l'enseignement de base, si on organise les enseignements pendant les vacances, ça veut dire que quelque part, on grignote sur leur temps de repos. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est que quand les élèves apprennent pendant les vacances, le temps d'apprentissage par trimestre peut être très long. Et si c'est très long, ce n'est pas toujours évident que les élèves ou les apprenants arrivent à suivre les apprentissages jusqu'au bout. À certains moments, ils peuvent se fatiguer avant qu'il ne soit temps. Ça a un impact direct sur la qualité des apprentissages. Du point de vue psychologique, si certains élèves, certains apprenants sont à l'école, imaginez-vous, vous avez une famille et tous les enfants peuvent ne pas aller à la même école. Et une école a décidé, indépendamment des décisions du ministre, a décidé de commencer les écoles avant la date officielle annoncée par le ministre. Et une autre école attend la recommandation du ministre. Vous voyez, vous avez des enfants dans une maison qui ne vont pas aux mêmes écoles et qui ne commencent pas au même moment. À un certain moment, ceux qui vont aller commencer les enseignements, les apprentissages en particulier pour les apprenants, avant le temps, je mets entre guillemets, cela va être vu comme une punition, comme quelque chose qui va au-delà de leur droit.
Selon toujours ce psychopédagogue, les élèves en vacances devraient être encadrés et suivis en se basant sur les matières qui posent habituellement des difficultés afin de les aider et précise que cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Suivez-le encore une fois.
Si les parents, le ministère, y compris les apprenants, il faut toujours, par exemple au niveau des cycles supérieurs, il est utile de demander l'avis des apprenants pour qu'en tout cas, eux aussi argumentent de l'intérêt d'apprendre pendant les vacances. Si, je mets au conditionnel, si les enseignements devraient être organisés pendant les vacances, ces enseignements ne doivent pas être comme des enseignements un peu classiques. Il faut un petit moment. Pas faire plusieurs heures par jour et il faut trouver des moments entre guillemets de repos, de pause pour que les apprenants qui sont en train d'avancer pour leur intérêt ne voient pas cela comme une punition, comme une corvée, comme une obligation, mais voient en cela comme un intérêt et essayer d'organiser quelques séances alternées avec des repos, alternées avec des jeux, etc., etc. Voilà, je dirais que et être à l'écoute. Si en certain moment ils se sentent fatigués, si en certain moment ils sentent voir autre chose, je pense que il faut arrêter des mesures, ce qu'on appelle des mesures adaptatives par rapport au vécu des apprenants qui sont en train d'apprendre en vacances, à la perception aussi des parents. Et à un certain moment, si vraiment le but recherché initialement n'est plus le cas, à un certain moment, il faut prendre des mesures adaptatives. Je me réserve de donner des recettes, c'est traiter au cas.
Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel.
Parlons agriculture à 18h12 dans le studio de la radio Isanganiro. Les terres cultivables moins étendues et la démographie galopante sont parmi les défis entravant le développement du secteur du coton au Burundi, ce qui entraîne une faible production. Propos de Pierre Claver Nahimana, ancien ministre de l'Agriculture, et suivant de près les questions liées à cette culture. Selon lui, des terres cultivables atteignaient plus de 10 000 hectares, cela fait des années, alors qu'actuellement, l'on estime qu'il n'en reste que 3 000 que 3 000 à 4 000 hectares. L'État devrait, dit-il, bien gérer ces terres cultivables, les protéger et les cultiver efficacement afin de garantir une production suffisante du coton suivi.
Il faut savoir que la culture du coton a été introduite au Burundi avant l'indépendance à l'époque. Donc ça veut dire les propriétés foncières de l'État et celles des agriculteurs étaient très larges, suffisamment étendues et très fertiles pour que les cotonculteurs qui veulent, appuyés par l'État, puissent effectivement cultiver de grandes étendues de coton qui pouvaient générer de grandes productions qui étaient bien entendu vendues à l'extérieur du pays. À l'époque, le pays pouvait en tirer beaucoup de recettes. Par exemple, avant 1960, si on regarde les statistiques, le Burundi et ses cotonculteurs pouvaient cultiver sur une étendue de 10 000 à 16 000 hectares pour en tirer une production qui va autour de 8 000 tonnes de coton. Et si on usait cette production primaire, on pouvait avoir une production de 4 000 tonnes, 5 000 tonnes à vendre à l'extérieur du pays. C'était à l'époque. Mais si on compare ce qui se passe maintenant, on constate que suite à la démographie galopante, suite à la concurrence entre les vivriers et les cultures industrielles, et aussi suite à une mauvaise utilisation des terrains de l'État, des propriétés foncières de l'État et des propriétés foncières des populations, une maîtrise de la problématique foncière par le pays, on constate que ces terrains se sont amenuisés. Alors, ce qui fait qu'actuellement, vous retrouvez la situation où la COGERCO, qui doit encadrer les cotoculteurs, elle a à sa disponibilité à peu près 3 000, 3 500 hectares. C'est pas beaucoup par rapport à 16 000. Et là, il va pas attirer beaucoup de production, hein, surtout que ces terrains sont dégradés. Alors, s'il récolte une faible production, ça, c'est un problème. Alors, pour le coton, je sais qu'il existe une stratégie national de développement du coton qui a été validé par le Conseil des ministres. À l'intérieur de cette stratégie, vous trouvez les recommandations nécessaires. Et dans ces recommandations, il y a d'abord la problématique de maîtrise de la problématique foncière. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pourrez pas étendre les superficies que vous voulez pour produire plus de coton.
Parlons à présent du CAFE, l'organisation Parole pour le réveil des paroles et actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Par SEM demande à l'État de passer au paiement des cafés culture. Faustin Dekoumane, directeur de cette organisation, le dit ce mardi en se basant sur le fait que le premier paiement commençait habituellement au mois de mai, se terminait au mois d'août, mais que jusqu'ici, des caféiculteurs n'ont pas encore reçu leur rémunération. Le directeur de la PARSEM estime qu'il est nécessaire qu'il y ait collaboration entre les différentes institutions afin qu'un seul organe soit chargé de suivre de près tout ce qui concerne le secteur caféicole. Et il s'exprime après que des caféiculteurs de Kayanza se soient lamentés à la fin du mois de juillet pour cause de retard de leur paiement. La rédaction de la radio Isanganiro a contacté à ce propos le directeur général de l'Office pour le développement du café du Burundi, ODK, mais Oscar Wikunda s'est réservé de tout commentaire. Les autochtones de la colline Rugenge se trouvant dans la commune Mhanda en province de Bujumbura demandent des terres cultivables afin de nourrir leur famille. La poterie ne les aide plus à vivre suite aux difficultés d'obtention de l'argile. Le secrétaire exécutif de la commune Mhanda fait savoir qu'au sein de l'administration, l'on attribue provisoirement des terres cultivables à ces peuples autochtones. Et la situation est ainsi au moment où le chef de l'État a déclaré récemment à Buganda que les autochtones doivent avoir des terres cultivables. Jean-Marie Vianney, Ngendakoumane.
Certains des autochtones vivant dans un village situé sur la colline de Rugenge, commune Mhanda en province de Bujumbura, rencontrent actuellement de grandes difficultés en raison du manque de terres cultivables. Ils expriment leur inquiétude pour leur avenir, notamment face à la croissance rapide de leur population. Autrefois, ces autochtones vivaient principalement de la poterie, mais aujourd'hui, cette activité ne leur est plus d'engrais secours car ils ont difficilement l'accès à l'argile nécessaire à la fabrication des dépôts. Il demande donc à ce que ces terres cultivables soient attribuées afin d'améliorer les conditions de vie. Malgré cette situation, Pascal Mbazumutima, un autre autochtone originaire de la colline Kizibusha, toujours dans la commune Manda, affirme avoir réussi à acheter son propre terrain où il a construit une maison et un champ de riz. Il dit avoir été motivé par les souffrances vécues par son grand-père qui ne possédait ni terre ni maison. Concernant cette problématique, Isaac Nyandwi, secrétaire exécutif de la commune Manda, informe que des démarches sont en cours pour identifier et attribuer des terres cultivables aux autochtones afin qu'ils puissent subvenir elles-mêmes à leurs besoins.
Les habitants autochtones sont comme les autres. Nous les prenons en charge si possible, suivant les espaces disponibles. Et d'ailleurs, on a pu construire autant de villages mixtes et la population autochtone comprise. On a pris aussi l'initiative de chercher des espaces libres de l'État ou bien de la commune pour qu'on puisse leur partager l'espace disponible suivant les saisons culturelles. Cela est dû à ce que nous voulons protéger ces espaces puisqu'ils peuvent les prendre à location ou bien les vendre. C'est pour cela que nous exigeons qu'eux-mêmes ils exploitent cette terre sans l'intermédiaire des autres personnes ou bien d'une autre personne.
De son côté, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a rappelé que la constitution du Burundi garantit à chaque citoyen, y compris les Batois, le droit à un logement et une terre. Il a tenu ses propos dans la commune Cibitoke le 8 août 2025 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones.
Je vais l'annoncer en titre des agriculteurs de la commune Bururi en province Burunga saluent finalement la disponibilité ce mardi des fertilisants de type urée qu'ils avaient commandé pour la saison culturelle BSC, même si ce retard est à l'origine de mauvaises récoltes. Ces agriculteurs qui craignent que ce retard risque d'être enregistré même pour la prochaine saison culturelle A demandent que tous les fertilisants nécessaires soient livrés à temps. Une information que nous devons à notre correspondant Zénon Zé.
Radio Isanganiro, chronique santé.
Appliquer des lotions ou des crèmes sur la peau d'un enfant est important pour prévenir le dessèchement cutané. C'est l'explication du docteur Pin Nibiranije, dermapédiatre. Il affirme que l'enfant doit recevoir des soins adaptés selon la zone de son corps. À titre d'exemple, pour le cuir chevelu, si l'enfant présente des pellicules, il est recommandé d'utiliser une lotion fluide presque comme de l'eau. Ce docteur précise également qu'un enfant ne doit pas partager les mêmes produits que les adultes, car ces lotions pour adultes contiennent souvent des substances interdites pour les enfants. On est là, mucho.
La peau de l'enfant est très sensible et nécessite une attention particulière pour rester saine et bien entretenue. C'est ce qu'explique le docteur P. Nibiranije, dermapédiatre. Il affirme que l'application des lotions ou de crèmes sur le corps des enfants est très bénéfique car cela permet de prévenir certaines affections cutanées.
Ces produits rendent la peau très douce. Donc, c'est pour dire la peau douce, c'est-à-dire il n'est pas irrité, il n'est pas sèche. Deuxièmement, sont des produits qui sont réparateurs. Quand je dis réparateur, ça veut dire quoi? Peut-être que l'enfant est malade, peut-être que l'enfant a un eczéma, peut-être que l'enfant a une autre pathologie, X ou Y, irritante. C'est-à-dire, en appliquant ces produits permettent une réparation de la peau.
Il y a plusieurs types de produits pour le soin de la peau. Ici, entre autres, les pommades qui sont très grasses et sans eau, idéales pour les zones très sèches ou irritées. Les lotions fluides et riches en eau qui conviennent aux peaux peu sèches ou sensibles. Les crèmes qui ont une texture intermédiaire combinant eau et corps gras et s'adaptent à la plupart des types de peau. Les spécialistes soulignent alors que le choix du produit dépend de la zone du corps et de l'état de la peau.
Les crèmes sont appliquées sur des peaux sensibles et surtout sur une peau suintante. Hein. Tandis que pour les peaux sèches, il est recommandé d'utiliser les pommades. Pour les lotions, sont utilisées pour au niveau du cuir chevelu. Alors, chez les enfants, même s'il y a ces trois types de choses, Ce qui est recommandé, ce sont les crèmes, les lotions, les pommades qui sont hypoallergéniques, c'est-à-dire qui n'entraînent pas des allergies ou bien qui n'entraînent pas des hypersensibilités. C'est-à-dire, quand on applique quelque chose sur la peau peut devenir rouge et peut être irritée, la peau peut devenir sèche. Donc, à ce moment-là, on va dire que la crème qu'on a mis, les lotions qu'on a mis, les pommades ont entraîné ce qu'on appelle une hypersensibilité, une rougeur.
Le docteur souligne également qu'il est interdit d'utiliser des produits destinés aux adultes sur les enfants car ces derniers peuvent contenir des substances inappropriées pour leur peau.
Les crèmes, les lotions, les pommades communes ne doivent pas donc être irritants ou bien ne doivent pas contenir des parfums. Ça c'est très important chez les enfants et ou bien de l'alcool. Donc ces trois choses sont à éviter, les parfums, les irritants comme les acides et aussi de l'alcool.
Enfin, il ajoute que lorsqu'un enfant souffre d'une maladie de la peau, il peut être traité par des produits prescrits selon les besoins spécifiques de sa peau, ce qui permet à celle-ci de retrouver son aspect normal.
Ainsi s'achève cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.
Mireille Kanyangi.